Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Suivez toute notre actualité de l'association sur notre site en ligne mariedenazareth.com. Vous y trouverez toute notre actualité. Je vous invite aussi à aller sur notre site 1000 raisons de croire, 1000 en chiffres.com, où vous retrouverez aussi toutes ces raisons qui nous poussent dans un premier temps à la réflexion, puis dans un second temps à l'évidence. Oui, il existe vraiment, il y a vraiment des raisons de croire. Je fais un appel. Si vous souhaitez m'aider à organiser un débat contradictoire avec un athée, un agnostique, nous serions très heureux d'aller dans votre région avec Olivier Bonassi, comme pour le débat sur l'authenticité du linceul ou non face à Absineur, qui était un youtubeur athée convaincu, ou contre Thomas Guénolet, le politologue intellectuel de gauche anticlérical, mais non, peut-être pas anticlérical, en tous les cas incroyant et voulant vraiment défendre le fait qu'il ne croit pas, mais qui nous avait fait l'amitié de débattre le 11 avril dernier sur l'existence de Dieu. Voilà, nous pouvons organiser tout à fait ce genre de choses en province et il suffit de nous contacter. Vous pouvez écrire à magnificat@mariedenazareth.com. Merci de votre aide pour organiser ce type de confrontation. Alors, cette semaine, Justina, de quoi allez-vous nous parler ?
On va parler de l'histoire du paralytique.
Très bien. Et en deuxième partie d'émission, nous reparlerons avec Patrick Spalchiero, pardon. Bonjour Patrick.
Bonjour.
De Padre Pio. Et poursuivrons la lecture de Lumière sur Saint Padre Pio, Pensée et prière. Alors Justina, ce paralytique, on le connaît tous.
Oui, mais bon, je vais quand même lire le passage d'abord, qui est lu dans l'Église orthodoxe aujourd'hui. Ça fait partie en fait du cycle post-pascal, ça ne change pas, tous les ans c'est pareil. Donc l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or il existe à Jérusalem, près de la probatique, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau, et le premier à l'heure à y entrer, après que l'eau avait été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. Il y avait un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant, entendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son grabat et marchait. Or, c'était le Shabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Et il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus, en effet, avait disparu, car il y avait une foule en ce lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Eh bien, ce dimanche, toujours chez les orthodoxes, c'est le dimanche du paralytique. Comme la semaine dernière, ça suscite beaucoup de blagues chez nous, dans le milieu orthodoxe.
Pourquoi ?
Si la fête des femmes Mirefort, c'est la journée orthodoxe de la femme, le dimanche du paralytique est considéré comme la fête des hommes. Oui, et ne me parlez pas du soi-disant patriarcat chez nous. Blague à part, je vais quand même essayer de procéder à l'exégèse du passage lu aujourd'hui. Le fond de ce récit ne consiste pas à nous parler d'un miracle accompli par le Christ parmi tant de miracles qu'il a accomplis. Ceci est l'histoire d'un crime. Jésus-Christ n'a pas respecté le Shabbat en guérissant un malade, le paralytique n'a pas respecté le Shabbat en acceptant cette guérison et en amenant son matelas. Et pourquoi donc cet homme a passé 38 ans resté paralysé ? À cause d'une croyance populaire. La croyance populaire a instauré cette espèce de jeu paralympique avant que cela ne devienne une tendance de faire croire aux gens qu'un ange ne descend qu'une fois par an dans la piscine et le premier plongé serait le premier guéri. Et selon les résultats de ces Jeux paralympiques, cet homme a été le perdant pendant 38 ans d'affilée. Ceci m'a toujours scandalisé, mais pas aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai cru enfin comprendre. Ce paralytique a été un homme bien, et un homme pieux sans doute. Il respectait donc le Shabbat, vénérait les anges, il ne se plaignait pas de son sort, il était parfaitement en accord avec l'idée qu'il peut saisir sa chance qu'une fois par an et en fonction de l'arrivée de l'ange. C'était donc quelqu'un qui avait le sens du sacré. Et le Christ lui demande donc, en le sortant de ce moule social, « Veux-tu guérir ?» Pas la peine d'attendre les anges, tu peux guérir ici et maintenant. Et oui, en plein Shabbat. Lève-toi donc et prends ton matelas et marche. Et le Christ le guérit. Et le paralytique se lève, marche et prend son matelas. Donc quelque part, si on souhaite avancer, il faut sortir de cette anabiose paralysante de l'orthopraxie qui nous rend immobiles et pitoyables. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat pour un juif ? C'est sacré. Si on souhaite grandir spirituellement, il faut donc parfois dépasser le sacré. Si on pense être chrétien sans le dépasser, on n'y arrivera pas à être chrétien. Quel était le problème du paralytique ? Que sa foi n'était pas placée en Dieu, mais dans les règles de ces Jeux paralympiques sacrés. 1, 2, 3, top, premier plongé, premier servi. C'est un jeu auquel on ne peut jamais gagner. Ici, j'actualise le problème. Ah, on n'a pas le temps. Ah, mais on n'est pas des saints. Ah, on a peur et mille et une bonne raison de rien faire. Pourtant, l'amour parfait détruit la peur. Quand on veut être avec quelqu'un, on avance vers lui malgré nos angoisses, malgré les règles de bienséance, malgré tout. Je veux être avec toi. Je veux être guéri. Shabbat ou pas Shabbat. Et si les pharisiens ont cherché à savoir qui a guéri le paralytique, au point qu'il n'en pouvait plus, il a fini par tout avouer, c'est que les pharisiens ont été scandalisés justement, non pas par la bonne action de guérison, mais par le manque de respect au sacré. Parfois, le sacré nous cache Dieu. Et si je peux donner un conseil de lecture, René Girard, La violence et le sacré.
Merci beaucoup, Yossina. Alors à présent, nous allons écouter un Ave Maria de Dvorak qui n'est pas si connu. Donc je vous propose de l'écouter. Il est interprété par Magdalena Kochena.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, Patrick Sbalquéro est de nouveau avec nous cette semaine et je m'en réjouis. Patrick Sbalquéro, auteur de nombreux ouvrages et historien, cette fois-ci avec nous pour Lumière de Saint Padre Pio, Pensée et prière chez Salvatore. Alors, auparavant, je voudrais dire que c'est une deuxième partie d'émission. Donc, si vous voulez retrouver la première partie, vous devez vous rendre sur le site de l'association Marie de Nazareth, dans la rubrique podcast qui se trouve tout en bas du site. Vous trouverez du reste tous les podcasts de Magnificat depuis le début. Sinon, vous pouvez retrouver sur la chaîne de Radio Courtoisie le podcast la semaine précédente. Alors, nous nous étions arrêtés à la Vierge Marie. Cette semaine, nous allons parler des saints. Saint Padre Pio aimait particulièrement Saint Pie Ier.
Il aimait beaucoup de saints. Il a oui. une référence principalement à deux grands saints qui sont tout d'abord... Et il est facile de comprendre pourquoi Saint François oui. d'Assise, bien sûr. Donc, fondateur des franciscains et de la branche des capucins.
Oui, bien sûr.
Une réforme, bien sûr, l'ordre des franciscains. Il a une grande, grande dévotion vis-à-vis de lui. Et il a eu de cesse, évidemment, d'essayer de l'imiter, de son abandon à la providence oui. et sa pauvreté. Pauvreté, c'est... D'ailleurs, une pauvreté à la fois matérielle et surtout spirituelle, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, le pape Saint Pie V aussi, le jour où il est ordonné diacre, il change son nom, il prend le nom de Pio,
oui.
Pio, Pie, hein,
oui.
comme le veut l'étymologie, pieux, donc en référence à ce pape du XVIe siècle, Saint Pie V.
Et Saint Pie Ier.
Et Saint Pie Ier également.
Ce qui est plus rare.
Ce qui est très rare, enfin oui. à ma connaissance,
oui.
c'est assez rare.
Sous le règne de l'empereur Antonin,
c'est ça,
en 140-155.
Tout à fait.
Ouais.
Et donc, c'est dire aussi, c'est une manière de marquer peut-être aussi pour Padre Pio, eh bien son amour et son obéissance envers le magistère de l'Église, envers la papauté, le successeur de Pierre. Voilà.
Alors ça, vous trouverez dans le livre, vous parlez un petit peu de Saint Pie Ier, c'est assez intéressant.
Ouais.
Alors, comme lui, hein, demandons l'intercession de ces bienheureux.
Voilà.
Alors la souffrance, alors là j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps sur la souffrance et la mort. Déjà, est-ce qu'on peut dire, je me trompe peut-être, hein, mais que Padre Pio croit en la prédestination ? C'est quand même une phrase dans votre livre qui me fait penser à ça. Vous dites, alors j'y vais, Padre Pio croit qu'il existe des vocations chrétiennes spéciales,
oui.
mais néanmoins réelles, dont la sienne, hein, qui en est une, consistant à participer à la passion du Christ sur un mode exceptionnel.
Oui.
On peut dire ça ou alors...
On peut le dire en ajoutant peut-être quelques mots. Dans toute l'histoire du christianisme, à commencer par Marie, par la Vierge Marie,
oui.
l'Annonciation, le oui de Marie,
oui.
eh bien, Padre Pio pense que des femmes sont appelés par Dieu à remplir certaines fonctions, en particulier parmi le peuple de Dieu dans l'Église. Et ce ne sont pas des marionnettes pour
oui.
autant.
Oui.
Dieu, bien sûr, respecte leur entière liberté. Dieu leur demande de dire oui ou de répondre oui ou de répondre non à leur appel.
Mmh.
Et Padre Pio, oui, a conscience de figurer parmi ce groupe
sont appelés à souffrir.
Assez particulier,
ouais.
c'est-à-dire doué de charisme assez mmh. extraordinaire dans ce peuple de Dieu. Mais ça n'en fait pas systématiquement des super chrétiens, du moins de leur vivant. Ça peut les amener à la sainteté.
Enfin, quand même, lorsqu'on souffre comme ils ont souffert,
alors,
je pense qu'il y a cette dimension...
Oui, il y a cette dimension tout à fait incroyable.
Ils ne souffrent pas pour rien. Ils savent qu'ils doivent offrir leur souffrance.
C'est ça. La question, ce n'est pas la souffrance elle-même, c'est le don de la souffrance.
Ah oui,
le don de la souffrance. Le Christ sur la croix n'accepte pas d'être crucifié pour souffrir. Il accepte de se donner au monde et aux hommes.
Vous avez raison.
Eh bien,
oui.
là, on peut faire le parallèle avec Padre Pio.
Oui.
Il ne demande jamais... Bien sûr, ce n'est pas un côté doloriste, bien
ouais.
sûr, hein, qu'il a. Il accepte et il offre ses souffrances au Seigneur. Oui. C'est assez différent, bien sûr. C'est très différent même. Et pour lui, offrir ses souffrances au Seigneur, mais ses joies aussi, parce qu'il en a nombreuses, eh bien, c'est la voie de la rédemption, quelque part. C'est la voie de la rédemption et de l'union à Dieu. Pour lui, à ses yeux, rien de pire, finalement, que de rejeter en bloc, eh bien, toutes les situations, les sentiments, les souffrances, donc, eh bien, qu'un homme ou qu'une femme peuvent éprouver dans la vie en disant non, tout cela, c'est mal, hein, tout cela, c'est négatif, hein, rejetons tout ça, donc la foi ne sert à rien, etc. Non, lui, au contraire, eh bien, place toute sa vie, toute son existence dans une optique évangélique, finalement, et offre. Sur un mode évidemment qui nous dépasse complètement, c'est le mode de la sainteté. C'est là aussi encore une fois un homme qui a vécu des persécutions, on pourrait presque dire ça, hein. Persécutions, voilà, y compris des persécutions parmi ses frères en religion, et donc qui à aucun moment ne vient à les condamner, si vous voulez. Il ne vient pas les condamner, il offre à Dieu ses souffrances en priant, en lui demandant, en demandant à Dieu, eh bien là aussi, de venir au secours de ses persécuteurs.
Comme il a vraiment, sait ce que c'est que la souffrance, c'est évidemment pour cela qu'il a créé la maison du soulagement de la souffrance.
De la souffrance, bien sûr, ce bel hôpital de San Giovanni Rotondo, qui est un hôpital absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'il n'a pas, il n'y a aucune attirance morbide envers la souffrance et envers la douleur. Ça, je crois que c'est important parce que il y a un certain nombre d'une certaine presse, en Italie en particulier, assez anticlérical, etc., ancien anti-Padre Pio, qui a cultivé un petit peu cet aspect-là, comme quoi il aurait...
C'était maso, en fait.
Oui, mais pas du tout.
Voilà. Alors, je vais reprendre votre phrase. La croix, c'est la foi en action.
La croix, c'est la foi en action. La croix, c'est la foi en action. Et la prière pour Padre Pio est une action. Et c'est une action, c'est même la première et l'essentiel des actions. Sans cette action, sans cette prière... comme dit Jésus dans l'évangile, on ne peut rien faire.
Oui, bien sûr.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Alors, il parle du démon en disant que le diable est comme un chien enragé, attaché à une chaîne au-delà de la chaîne, il ne peut happer personne.
Oui.
Donc, tiens-toi loin de lui. Si tu t'approches trop, tu te feras prendre. En fait, finalement, c'est pas mal comme description.
Là aussi, encore une fois, comme l'Église, comme la Vierge Marie, comme beaucoup de choses, l'essentiel, eh bien, il a une conception catholique, j'ai envie de dire avec un C majuscule, une conception ecclésiale, théologique.
Et non pas manichéenne.
Et non pas du tout manichéenne, il ne fait jamais du tout la comparaison, où il ne met jamais sur un même pied d'égalité Dieu et le diable, bien sûr, comme on a tendance à le voir à travers les films à Hollywood, etc., le combat entre deux forces.
Je dirais même que l'Église a un peu véhiculé ça à un moment, pour après ne plus parler du démon.
Oui.
C'est toujours difficile, hein, c'est un sujet quand même...
C'est très difficile, très difficile. Lui, il l'expérimente de surcroît, là aussi, dans sa chair.
Oui.
Il a de très très fortes tentations, etc. C'est un petit peu à l'image du Saint Curé d'Ars, il est un petit peu martyrisé, quoi. Là aussi, comme Mère Yvonne et Malétroit et d'autres.
Oui.
Ce sont des choses qui sont assez incroyables pour nous, bien sûr, mais qui ont été attestées.
Ouais. Donc, seule une proximité volontaire de l'homme avec le diable dans l'ordre moral fait naître le danger.
Voilà, exactement.
Alors, les péchés et les pécheurs ont dit qu'il aurait confessé 5 millions de personnes.
Alors, les chiffres sont compliqués peut-être à établir avec une grande rigueur. Mais c'est un homme qui a confessé pendant des années, des heures durant, chaque jour. Et on venait à San Giovanni Rotondo de très loin, pratiquement de toute l'Europe, à la fin de sa vie. C'était vraiment une personnalité avec absolument incroyable. Alors 5 millions, je ne sais pas, mais il a certainement confessé bien sûr des centaines de milliers, peut-être des millions. Oui, c'est incroyable. C'est l'un des saints, à ma connaissance, qui a... au cours de sa vie, le plus confessé. Peut-être là aussi, encore une fois, avec Saint Jean-Marie Vianney.
Oui, alors j'allais parler justement de Saint Jean-Marie Vianney, parce que s'il y avait eu les moyens de communication à l'époque, peut-être qu'il y aurait eu aussi beaucoup de monde dans son confessionnal.
Mais il y en avait déjà, mais oui, sans les moyens de communication que nous avons, sans les réseaux, sans etc. Donc, oui, la Ars était envahie quand même de son vivant.
Oui, oui.
Non. Là, les pêcheurs, les pénitents viennent de très loin. Ouais. Il a acquis évidemment une réputation de
confesseur. Oui, comme il lit dans les âmes.
Exactement.
Et puis, il donne des gifles.
C'est ça. C'est une manière... je ne sais pas. Oui, mais c'est une manière de confesser parfois un particulier. Ben il ne distribue pas des gifles
à tout le monde.
À tout le monde.
Non. En fait, il y a une histoire.
Il a une manière parfois assez rude.
Alors justement, c'est ça. C'est comme ça qu'on le voit très souvent, rude. Mais dans votre livre, vous parlez de son bon sens, son humour, de sa douceur, de sa disponibilité. Je crois que c'est un des rares livres, j'en ai lu plusieurs sur Padre Pio qui m'ont passionné, mais cet aspect de Padre Pio, je ne l'avais pas perçu, enfin en tous les cas, autant que vous ne le décrivez.
Il existe, c'est vrai, vous avez raison, une certaine image d'Épinal montrant un Padre Pio assez brutal, assez austère.
Qu'on aime
très
malgré
froid,
tout.
Très doloriste aussi, quelque chose vraiment, en fait, très éloigné de la réalité. Hein. Il lui est arrivé de reprendre et de sermonner, pour le coup, de manière assez rudement, un certain nombre de pêcheurs.
Oui.
Des pêcheurs parfois, on va dire récidivistes. Vous voyez ce que je veux dire. mais dans la plupart des cas, non. Par contre, ce qu'il faut noter, outre ça, effectivement, sa douceur, sa patience, c'est ce don extraordinaire, ce charisme extraordinaire qui lui permettait, en certaines situations, pas tout le temps, en certaines situations, de lire dans le cœur des pénitents.
Mais je pense que c'est une grâce énorme, non seulement pour lui, pour aider, mais pour le pénitent.
Mais bien sûr.
Parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'arrive pas à exprimer. Alors,
en langage humain, bien sûr.
Mais oui, c'est formidable. Ouais.
Tout à fait. Alors là, ça dépasse le côté simplement sensationnel, extraordinaire.
Oui, bien
c'en
sûr.
Est un. Mais là, on est vraiment dans le domaine spirituel et il allait toujours au bon conseil, bon conseil spirituel, juste et exact.
Ouais. Éclairé par le Saint-Esprit.
Voilà.
Alors, il rappelle aux pêcheurs que l'humilité et fille de l'amour, sans qui rien n'existe, bien sûr. Alors, la famille. Son attitude vis-à-vis de la famille dans la société est peu commentée, sauf quand même qu'il place le divorce en tête pour les péchés contre la famille.
C'est vrai.
Il accueille par contre toujours avec bonté, bien sûr, les personnes issues des familles désunies. Là encore, il sépare bien la personne de sa situation.
Toujours. Le pêcheur de la personne.
Oui, tout à fait. Alors, on ne sait pas à quel point il semblait attaché à ses 7 frères et sœurs et ses parents, dont vous dites que le portrait était accroché dans sa chambre, dans sa cellule. Et en fait, cet homme qu'on prend pour un roc, encore une fois, vous parliez d'images d'Épinal tout à l'heure, finalement... on se rend compte que, il était sensible. Il s'est évanoui quand sa maman est décédée de douleur.
Oui, c'était quelqu'un de très sensible. C'est quelqu'un qui est né en 1887, donc à une époque où dans cette partie de l'Italie, dans la région de Bénévent, la famille, la famille compte énormément. Il a eu cette chance-là de partager joie et plaisir et prière également au sein de sa fratrie. Hein.
Oui.
Et il est resté jusqu'au terme, jusqu'au bout de sa vie, un grand priant d'abord pour les siens, en faveur des siens, et un grand priant en faveur de toutes les familles. Mmh. Et pour lui, c'est presque là une manière de rejoindre d'ailleurs ce qu'est la pensée de Saint Jean-Paul II. Il dit, la famille, il y a quelque chose, c'est presque une église domestique.
Oui,
il ne l'a pas écrit comme ça, ne l'a pas dit comme ça.
Mais on le perçoit dans votre
livre.
Il
l'a vécu comme ça, de cette manière-là.
Vous dites, Dieu couronne les familles légitimes par des enfants. Alors c'est un petit peu dur, je trouve, quand même.
Oui.
Mais il faut voir la suite, parce qu'il y a toutes sortes de fécondités, évidemment.
Bien sûr.
Afin de peupler la terre et le paradis. On n'imaginait pas. Alors, la paix, maintenant, nous avons terminé avec la paix. Quelle vision a-t-il de la paix?
Ah, c'est une vision aussi très monastique, très spirituelle, bien au-delà de la paix géostratégique.
Oui, qu'on connaît actuellement.
Actuellement. Bien sûr, il n'a pas du tout de. chez lui de tendances qu'on pourrait qualifier de nationalistes, par exemple.
Oui. Hein.
Il, du reste, son service militaire se passe plutôt mal, d'ailleurs. Bon. C'était pas bon, voilà. Il n'est pas fait pour le métier des armes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il aime ça, l'Italie. Hein. Il aime la patrie, il aime sa patrie. Mais au-delà de ça, il aime l'humanité, surtout il aime Dieu. Et pour lui, la paix est un signe, bien sûr, de foi, un signe d'union à Dieu. Et sans cette paix, rien, nos signes ne peut se construire. Alors, humainement, pour bâtir la paix, il faut vivre l'Évangile, essayer du mieux que l'on peut de vivre l'Évangile, et à sa mesure, pour lui-même, eh bien, c'est dans le cadre d'une communauté, évidemment, religieuse. Hein. Ouais. Donc, la paix, c'est un fruit de la régularité monastique, ouais. Et il l'entend comme ça. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il aura au cours de sa vie, bien des occasions justement de voir cette paix s'envoler autour de lui, ouais. Puisqu'on va lui faire on lui a fait quand même un certain nombre de misères assez incroyables. Ouais. Ouais.
Alors, la paix est fruit de Dieu, elle reste inséparable de l'union au Christ et à son Église. Je dis ça pour les auditeurs, vous verrez, il reste deux petits chapitres à la fin où vous retrouvez des citations de prêtres, d'ecclésiastes de son époque, de son vivant et après sa disparition. En fait, il était très aimé par ses confrères quand même. On a davantage fait ressortir ceux qui ne l'aimaient pas, mais les gens ne devaient pas oser. Je pense que c'était ça. Écoutez, merci beaucoup, Patrick.
C'est moi.
Vraiment. Nous nous reverrons bientôt pour parler de Frassati.
Toujours, avec plaisir.
En Italie. Voilà, chers auditeurs, bonne semaine et merci pour votre fidélité.